Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit, nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
S'il y a des pays qui maintiennent leur station de ski ouverte, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives.
Europe 1. Pas de ski à Noël, en France ni à l'étranger, voilà ce que souhaite Emmanuel Macron qui veut dissuader les Français de traverser tout chousse les frontières pour aller dévaler les pistes de nos voisins. Le chef de l'État qui a commencé à préciser le futur calendrier de vaccination contre le Covid, fin décembre, début janvier pour les personnes âgées en EHPAD, avril-juin pour le grand public. L'affaire Fiona à nouveau devant la justice, quatrième procès pour la mère et l'ex-beau-père de la fillette disparue il y a plus de 7 ans à Clermont-Ferrand. Dans ce journal également, la disparition d'Annecy Sylvestre, ses fabulettes ont enchanté les enfants, ses chansons engagées ont marqué les plus grands. Le Vendée Globe, que va-t-il se passer maintenant pour Kevin Escoffier, sauvé par Jean Le Cam? Et puis le foot, la Ligue des Champions, Marseille affronte en ce moment l'Olympiakos au Vélodrome, Jean-François Pérez.
Oui, et l'hiver tombe sur Marseille, il fait froid et l'Olympique de Marseille est mené logiquement à la mi-temps 1-0, un but de Madi Camara, le jeune Guinéen pour l'Olympiakos. Il reste une mi-temps aux Marseillais pour essayer d'arracher au moins une victoire, mais l'OM pour l'instant est éliminé de toutes les Coupes d'Europe.
A tout de suite Jean-François Pérez. Le temps de demain, hivernal sur l'ensemble du pays, pas que à Marseille. Au programme, ciel couvert et température très fraîche, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse d'1,14% à 5581 points. Tous les détails à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Il est possible depuis aujourd'hui de changer de complémentaire santé à tout moment. Emmanuel Duteil reçoit à ce sujet Amina Walter du comparateur en ligne le lynx.fr. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les skis vont donc rester au garage à Noël. On savait déjà qu'on ne pourra pas dévaler les pistes en France, les remontées mécaniques restant fermées. Eh bien, a priori, on ne pourra pas non plus profiter des joies de la glisse à l'étranger. En tout cas, Emmanuel Macron compte nous en dissuader, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, interrogé sur la perspective d'avoir des stations de ski ouvertes à quelques kilomètres de la frontière française, alors même que nos propres stations seront fermées à Noël, le président l'a précisé, il compte dissuader les Français de s'y rendre.
S'il y a des pays de l'Union européenne et des pays hors UE qui maintiennent leurs stations de ski ouvertes, nous aurons des mesures de contrôle pour d'abord dissuader plutôt nos concitoyens d'aller dans des zones où on considère qu'il y a des risques d'infection et pour ne pas aussi créer une situation de déséquilibre avec des stations en France, en Italie, en Allemagne qu'on serait amené à fermer quand d'autres ouvriraient. Donc oui, nous aurons des mesures restrictives et dissuasives.
Une mise en garde et une déclaration d'intention dans un contexte particulier. L'Autriche, la Suisse et dans une moindre mesure l'Espagne ne prévoient pas forcément de fermer leurs stations pour Noël. Des discussions restent en cours au niveau local. Mais à défaut de pouvoir contraindre nos voisins à fermer leurs propres stations, Emmanuel Macron envoie donc un message aux skieurs français. N'allez pas goûter à la poudreuse de nos voisins. Selon nos informations, la possibilité d'une quarantaine est évoquée pour toute personne qui reviendrait de ces zones. Est-ce suffisamment dissuasif, restrictif pour reprendre les mots du président? Est-ce par ailleurs réaliste d'un point de vue des contrôles alors qu'aujourd'hui les frontières ne sont pas fermées avec nos voisins? Il y a encore beaucoup de questions derrière cette affirmation du président.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Des sanctions ou une quarantaine pour les Français qui iraient skier en Suisse ou en Autriche? Une mesure de justice, réagit Jean-Luc Bock, le maire de La Plagne. D'autant que certaines stations étrangères n'ont pas été très fair-play ces derniers temps, explique l'élu savoyard.
La proposition qui est faite par notre président de la République me paraît juste et vraiment en tout cas justifiée en ce qui me concerne, parce qu'on avait vu là depuis quelques temps des campagnes de communication destinées à la France, notamment de nos amis suisses, qui expliquaient qu'ils étaient prêts à mettre des bus pour venir chercher des clients à Châtel, donc Châtel en Haute-Savoie, les emmener skier la journée sur leur domaine skiable et les ramener le soir dans leur résidence en Haute-Savoie à Châtel. Et ça, on trouve ça totalement anormal. C'est d'abord un problème sanitaire avant toute chose, parce que les stations françaises, on va mettre en place un protocole qui va permettre de protéger une grande partie de la population vacancière et surtout notre population saisonnière. Et c'est pas pour que nos vacanciers, ils aillent attraper cette maladie dans un autre pays et reviennent la propager dans le nôtre. À un moment, on ne peut pas faire n'importe quoi et notre président vient de rétablir cela et on l'apprécie.
Le maire de La Plagne est président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, joint pour Europe 1 par Mathieu Bock. Serons-nous tous vaccinés contre le Covid avant les vacances d'été? C'est en tout cas l'objectif affiché du gouvernement. Emmanuel Macron et Jean Castex ont confirmé aujourd'hui que les premières doses iraient bien aux personnes âgées en EHPAD, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Première piqûre fin décembre ou début janvier. Mais qu'en sera-t-il pour le reste de la population? Eh bien, le chef de l'État a dévoilé cet après-midi un premier calendrier, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, cela ne se fera pas avant le printemps pour le grand public. Quelque part entre avril et juin, précise Emmanuel Macron. Avec ce détail, il ne sera pas obligatoire de se faire vacciner. Ce sera la dernière des cinq phases de cette stratégie, car avant et en premier lieu, ce seront les personnes âgées résidant en EHPAD qui pourront bénéficier des premières générations de vaccins. Fin décembre, début janvier, cela peut paraître tôt dans le calendrier, mais pas tant que ça, à en croire le professeur Odile Launay, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Cochin.
On va vacciner des gens pour lequel, s'ils sont infectés, le risque de développer une forme grave, voire de décéder de la maladie, est plus important. Donc, en vaccination, c'est toujours un rapport bénéfice-risque. Donc, les risques du vaccin, c'est les risques potentiels d'effets indésirables sévères ou graves. Et pour l'instant, dans le développement de ces vaccins, il n'y a aucun signal en termes de risque et d'effets indésirables graves.
Suivront les personnels sanitaires, puis les plus de 50 ans. Ensuite, ce seront les personnes dont le métier favorise une infection. Toutes les doses sont réparties par la Commission européenne vers chaque État membre. Ceci pour éviter toute course entre les pays, des pays qui appliquent leur propre stratégie de vaccination. À charge aussi pour les gouvernements de convaincre les plus réticents et d'assurer une logistique d'approvisionnement sans faille.
Jean-Sébastien Soldaini, avant de remplir les seringues qui vont nous piquer, ces vaccins vont être évalués pour obtenir ou pas le feu vert de l'agence européenne des médicaments. Verdict attendu le 29 décembre, au plus tard, pour le vaccin de Pfizer et BioNTech. Les deux laboratoires ont déposé aujourd'hui leur demande d'autorisation pour l'Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Ils avaient en 2013 caché la mort de la petite Fiona, 5 ans, en faisant croire à son enlèvement. Le procès en appel de Cécile Bourgeon et de son ex-compagnon Berkane Makhlouf s'est ouvert ce matin devant les assises du Rhône. L'espoir, plus de 7 ans après les faits, de lever les zones d'ombre qui demeurent. Qui a porté les coups mortels et surtout où se trouve le corps de la fillette? Jean-Luc Boujon, vous avez assisté à cette première journée d'audience et vous avez découvert une Cécile Bourgeon métamorphosée.
Oui, d'abord physiquement, Cécile Bourgeon n'est plus blonde comme à son précédent procès, mais elle arbore des cheveux roux ondulés. Mais surtout, désormais sortie de prison, elle n'est plus sous anxiolytique ni sous l'emprise de la drogue comme au moment de la mort de Fiona. Résultat, c'est une femme vive et alerte qui répond au président depuis le début de l'après-midi. Une femme de 33 ans qui raconte avec un plaisir non dissimulé sa vie d'aujourd'hui. Son mariage il y a un an avec un Algérien en situation irrégulière rencontré sur un site de rencontre à peine sorti de prison. Puis la naissance de son quatrième enfant en mars dernier, une petite fille qui lui a immédiatement été retirée en raison de sa situation judiciaire et qu'il a même fallu soigner pour la désaccoutumer du Subutex, médicament substitué à la drogue que prend sa mère depuis des années. Une situation qui choque l'avocat du père biologique de Fiona, maître Charles Fribourg.
Elle, effectivement, a obtenu un enfant, sachant qu'elle en a deux autres dont elle ne s'occupe pas beaucoup. Elle s'est préoccupée d'avoir une nouvelle vie, mais pas de renouer avec ses enfants. Je pense que ça choque tout le monde, pas le seul.
Voilà Cécile Bourgeon qui avait auparavant, dans une brève évocation des faits, répété qu'elle n'avait porté aucun coup mortel à sa fille. Son ex-compagnon Berkane Makhlouf, à côté d'elle dans le box, l'a au contraire exhorté à enfin dire la vérité.
Jean-Luc Bourgeon qui suit pour Europe 1 ce procès à la cour d'assises du Rhône. La piste criminelle ne fait plus aucun doute après l'incendie d'un relais de radio-télédiffusion sur les hauteurs de Marseille. Des traces d'effraction et plusieurs départs de feu ont été relevés par les gendarmes. Près de 3,5 millions de foyers sont en partie privés de radio et de télévision depuis la nuit dernière, mais vous pouvez toujours écouter Europe 1 dans la région marseillaise. À Trèves, au sud-ouest de l'Allemagne, un homme a percuté en voiture des passants dans une zone piétonne. 5 personnes ont été tuées, dont un bébé de 9 mois. On dénombre aussi 15 blessés, dont certains très grièvement. Le conducteur a été interpellé. Il s'agit d'un Allemand de 51 ans qui souffre de troubles psychiatriques, a déclaré ce soir le procureur en charge de l'enquête. Nous n'avons pas vu de fraude susceptible d'invalider l'élection de Joe Biden. Déclaration ce soir du ministre de la Justice américain, Bill Barr, pourtant un fidèle soutien de Donald Trump, qui lui refuse toujours de concéder sa défaite. En Israël, le gouvernement d'union est en train d'imploser. Benny Gantz, le ministre de la Défense, annonce ce soir son intention de voter demain une motion de l'opposition demandant la dissolution du Parlement et la tenue de nouvelles élections. Le chef du parti bleu-blanc se dit déçu du Premier ministre Benjamin Benjamin Netanyahou. Des générations de Français ont grandi avec ces fabulettes, ces chansons pour enfants que l'on fredonne à tue-tête. Mais Anne Sylvestre était aussi une chanteuse à texte. Elle s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Femme engagée, féministe, Anne Sylvestre était une amoureuse des mots et de la poésie. Angèle Châtelier.
Le grand amour d'Anne Sylvestre, c'était les lettres, qu'elle étudie à Paris, tout juste arrivée de la banlieue lyonnaise, avant d'en faire des chansons. Son premier succès musical, Mon mari est parti, sorti en 1961.
Mais que voulez-vous bien que le printemps me donne, je suis seule.
Femme des cabarets, Anne Sylvestre est rapidement devenue la tête d'affiche de grandes salles, à guichets fermés. Dedans, tous les publics, adultes comme enfants, à qui elle chantait les fabulettes.
Les autoroutes, les horloges sonnent.
Mais il y a aussi Anne Sylvestre l'engagée, pour l'environnement, les minorités et le droit des femmes. Elle évoque l'emprise dans le couple, le viol et met des mots et de la musique sur l'avortement qu'elle prône dès 1974 dans Non, tu n'as pas de nom.
Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense.
Anne Sylvestre était empathique, tellement que lorsque Robin lui demandait sa recette du bonheur, c'est des autres qu'elle parlait.
C'est, je pense, déjà de savoir que les gens qu'on aime sont bien. Savoir où ils sont. Moi, j'aime toujours pouvoir situer les gens qui me sont proches et savoir qu'ils vont bien.
Des proches comme son public, elle affectionnait, même s'il pouvait leur arriver de ne pas être sûr d'eux. Car Anne Sylvestre restera toujours celle qui aimait les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps.
La poésie, les mots d'Anne Sylvestre qui nous a donc quittés à l'âge de 86 ans. On retourne tout de suite au stade Vélodrome, retrouver Jean-François Pérez, car Marseille, on le comprend avec les éclats de voix derrière vous, vient d'égaliser face à l'Olympiakos.
Absolument, oui, sur un pénalty de Dimitri Payet, Payet qui avait raté dans les grandes largeurs un autre pénalty à Porto il y a quelques semaines. Il a tenu absolument à tirer celui-ci, le meneur de jeu marseillais, consécutivement à une faute sur Florian Thauvin à l'entrée de la surface. Pénalty indiscutable, il a quand même fallu que l'arbitrage vidéo interviennent pour que ce pénalty soit sifflé et permette donc à l'Olympique de Marseille de revenir à la hauteur de l'Olympiakos à la 55e minute de jeu. Ce sont les Grecs en effet qui avaient ouvert la marque à la 33e d'une magnifique frappe de Madi Camara en pleine lucarne de Steve Mandanda. Un partout donc, rien n'est forcément arrangé pour l'Olympique de Marseille qui est toujours éliminé de toutes les Coupes d'Europe pour l'instant. Les Marseillais qui doivent encore marquer deux buts pour passer devant les Grecs sans en prendre un autre évidemment et pour espérer toujours la 3e place et continue un parcours européen en Ligue Europa. Encore un petit peu plus de 35 minutes pour rêver à ce destin, mais il va falloir que les Marseillais soient quand même bien meilleurs que ce qu'ils montrent jusqu'à présent.
Merci beaucoup Jean-François Pérez en direct du stade Vélodrome. Jean-François, que l'on retrouvera d'ici une dizaine de minutes. Il a passé 10 heures ballotté dans un radeau de survie sur une mer démontée. Quel soulagement ce matin lorsqu'on a appris le sauvetage de Kevin Escoffier au large du Cap de Bonne-Espérance. Le skipper du Vendée Globe a été secouru dans la nuit par Jean Lecam, l'un de ses camarades d'aventure. Les deux marins sont désormais ensemble sur le même bateau. Que va-t-il maintenant se passer, Corinne Boulou ?
Eh bien, après cette parenthèse, la course a repris ses droits. Jean Lecam et les trois autres navigateurs, Yannick Bestaven, Boris Herman et Sébastien Simon, qui se sont déroutés hier soir, vont obtenir une compensation en temps. Kevin Escoffier reste pour le moment à bord du monocoque de Jean Lecam. Son équipe et la direction de course étudient une solution pour le débarquer. L'opération pourrait avoir lieu le 7 décembre au nord des îles Kerguelen, au milieu de nulle part dans l'océan Indien. Un bâtiment de la Marine nationale, la frégate Le Nivose, chargé habituellement de contrôler les zones de pêche des îles françaises dans cette région, s'est proposé pour le récupérer. En attendant, le binôme Lecam-Escoffier progresse à bonne allure vers la longitude du Cap de Bonne-Espérance qu'il devrait atteindre la nuit prochaine. Dans le respect de l'esprit de ce tour du monde en solitaire, Kevin Escoffier ne doit prendre part à aucune manœuvre à bord. Il peut échanger avec son sauveteur mais sans participer à la bonne marche du bateau. Et pour l'alimentation, eh bien, il peut piocher dans les rations quotidiennes du bord, bien entendu.
Nous voilà rassurés. Merci Corinne Boulot qui suit pour nous ce Vendée Globe riche en émotions. On passe à la météo. Anissa Haddadi, la journée de demain sera très nuageuse.
Oui, il va faire très gris hein. Demain, Julien, sur les trois quarts de la France, le ciel est très couvert. Nous avons une espèce de plafond gris au-dessus de nos têtes. Le temps est calme, mais attention, il va faire frais, couvrez-vous. Avec d'ailleurs sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées, toujours des chutes de neige à partir de 700 mètres cette fois-ci. De la Bourgogne jusqu'aux Pyrénées, en passant par l'Auvergne, là nous aurons des petites averses tout au long de la journée. Et puis au bord de la Méditerranée, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est là que les éclaircies seront les plus généreuses. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours beaucoup de nuages sur l'ensemble de la France. Sur la Méditerranée, le ciel se dégage, mais le Mistral et la Tramontane soufflent toujours. Et puis, des Ardennes jusqu'à l'Auvergne, toujours quelques petites averses comme ça qui vont rythmer votre matinée. Les températures, elles sont négatives, mais cette fois-ci, dans le sud. Nous aurons des températures négatives à Rodez ou encore à Manosque. Dans l'est, ça remonte un petit peu avec 0 à Strasbourg, 5 à Paris et 8 à Ajaccio. Et puis, au meilleur de la journée, couvrez-vous, seulement 3 à 13 degrés, 3 à Saint-Étienne, 9 à Paris et 12 à Nice.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Peirce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Après une courte pause hier, Wall Street repart déjà à la hausse ce soir.
Ah oui, c'est reparti. Les pauses sont très courtes hein, sur le marché américain en particulier. Wall Street repart en direction de ses records historiques. Le Dow Jones remonte de 0,63%, 29 824 points. Le Nasdaq gagne plus d'1%, 1,28%, 12 355 points. La consolidation d'hier est déjà oubliée avec cette sortie de crise anticipée par les marchés financiers grâce à l'arrivée des vaccins. On a des valeurs de technologie qui repartent à la hausse. Amazon, plus 1,6%. On a Apple qui reprend 3% à $122.72. Intel plus 2,5%, Facebook plus 3,5%, $286. Tesla aussi gagne 3% à plus de $584. IBM est stable. Il y a aussi une nouvelle qui a fait son effet sur le marché, c'est Airbnb, qui a apporté des précisions sur sa prochaine arrivée en bourse à Wall Street et qui pourrait être valorisée jusqu'à $35 milliards. C'est beaucoup plus que prévu. Les premières cotations d'Airbnb auront lieu à la mi-décembre. Le pétrole revient un cran en arrière, $47.40 le Brent. Exxon remonte quand même d'1% à $38.50. Et puis l'euro est très ferme ce soir, au-dessus des 1,20. Il culmine à 1,2070 face au billet vert.
La Bourse de Paris a elle aussi débuté le mois de décembre en nette progression.
Oui, même scénario. Hein. La Bourse de Paris, plus 1,14%. Même chose qu'à Wall Street, on remonte directement. Sans vraiment marquer de pause, après la consolidation d'hier, 5581 points, plus 1,14% à la clôture. Ça rebondit sur les industriels, Jacquet plus 10%, De Richbourg plus 7%, STM plus 4% avec Valeo et Eramet. Les financières aussi se réveillent. On a le Crédit Agricole plus 5%, la Société Générale plus 4,5% avec Natixis, plus 3% BNP. L'assureur AXA aussi prend 0,5%, 19,81€. Le groupe vise une croissance de son résultat opérationnel de 3 à 7% en moyenne sur la période allant de 2021 à 2023. AXA donc ce soir en hausse de 0,5%. Donc toutes les valeurs financières en nette progression à la clôture ce soir.
Exception du jour, le groupe Ipsen qui a perdu du terrain après l'annonce de sa feuille de route.
C'est le petit couac du jour, oui. Ipsen perd 4,7% quand même, €77. Le groupe de laboratoire donc vise un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de 2 à 5% sur la période 2020-2024. Des perspectives fraîchement accueillies en bourse avec un titre qui a été vendu en fin de journée surtout avec cette baisse de 4,7% à la clôture, €77. Les autres places financières remontent donc, hein, le DAX à Francfort plus 0,7, Bruxelles plus 1,4, Madrid plus 0,8, Milan plus 0,3 et donc le CAC 40 en hausse ce soir. Nette hausse, plus 1,14%, 5581 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com. 22h21 sur Europe 1, passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Amina Walter.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale déléguée du Lynx.fr. Le Lynx est un des grands comparateurs de prix pour les assurances. Alors si on a voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est qu'une mesure importante est entrée en vigueur aujourd'hui, puisque l'on va maintenant pouvoir changer de mutuelle quand on le veut, y compris en cours d'année, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Les règles des complémentaires santé s'alignent maintenant sur celles qui existent déjà dans le cadre de ce qu'on avait appelé la loi Hamon de 2014 pour les contrats d'assurance auto et d'habitation. Alors particulièrement, si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous sortez justement aujourd'hui une grande enquête sur l'envie ou non des Français de changer d'assureur. Et quand les Français sont au courant, pardonnez-moi l'expression, il n'y a pas photo, ils veulent changer d'assureur.
Quand ils sont au courant, c'est un Français sur deux qui compte changer d'assureur. Donc évidemment, ce dispositif de la loi infra-annuelle va permettre aux assurés de changer à tout moment, sans frais supplémentaires. Donc c'est une excellente nouvelle.
Mais vous pensez que les Français vont s'en saisir ? En tout cas, c'est ce qui semble sortir de votre sondage. Pourtant, on sait que quand la loi Hamon est entrée en vigueur pour l'automobile, pour l'habitation, ça a pris un temps fou avant qu'on comprenne que c'était intéressant et possible.
Alors, vous avez absolument raison. Aujourd'hui, quand on interroge les Français et quand on leur explique de quoi il s'agit et comment ça fonctionne, c'est 94% des Français qui y sont favorables et un Français sur deux qui compte changer. Encore faut-il qu'ils en aient connaissance et qu'ils le comprennent. On a une bonne expérience avec la loi Hamon qui a eu un réel impact sur l'ouverture des marchés puisqu'elle a renforcé les droits des consommateurs. Mais peu de Français en connaissant les tenants et les aboutissants. Donc après, on n'a pas vu tout de suite les consommateurs se précipiter pour faire des changements, nos utilisateurs en tout cas. En revanche, on a vu que les assureurs ont redoublé d'efforts pour proposer des offres et des prix plus attractifs.
Oui, on sait que sur au moins l'automobile, la hausse a été freinée, particulièrement cette année, en grande partie grâce à cette loi. Ce qui est important, c'est qu'on peut faire d'importantes économies si jamais on fait jouer la concurrence, et notamment sur la complémentaire santé, puisqu'on n'y fait peut-être pas assez attention. Mais je crois que votre étude montre que 70% des personnes qui ont répondu ont constaté une augmentation de leurs primes, et assez conséquente hein, quand même, ces trois dernières années.
Alors, si on veut quelques chiffres, on peut dire que de toute façon, les primes d'assurance santé ou autres, elles augmentent chaque année. D'accord. Donc, dans un moment, dans un contexte un peu incroyable qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, il y a aussi notamment sur la santé une taxe Covid qui va être imposée aux mutuelles et qui va faire gonfler par effet, on va dire boule de neige, le montant des primes.
Donc, alors peut-être un petit détail sur cette taxe Covid, parce que je crois que pas beaucoup de nos auditeurs sont au courant. C'est le gouvernement qui a décidé de taxer d'une certaine manière les mutuelles, tout simplement parce qu'elles ont dépensé moins d'argent pour la santé des Français à l'occasion du Covid. Et donc d'une certaine manière, l'État a dit, ce que vous êtes mis de côté, pardonnez-moi l'expression, nous on va en récupérer une partie, mais les mutuelles ont dit, nous on va le répercuter à nos clients.
Exactement. En fait, ça correspond à 1 milliard d'euros en 2020, 1 milliard d'euros en 2021. Donc, évidemment, il va y avoir des conséquences sur les primes des Français. Et on attend une augmentation entre 2 et 4% en 2021 déjà.
Donc, si je vous comprends bien, c'est plus que jamais le moment de faire jouer la concurrence.
C'est plus que jamais le moment de faire jouer la concurrence. Je vais vous donner le montant moyen déboursé par les Français sur la mutuelle santé. C'est autour de 900 euros par an, 892 euros en moyenne par an, sachant que, par exemple, les seniors vont payer très, très cher, les travailleurs non salariés également. Donc, c'est le moment de faire jouer la concurrence parce que l'économie sur le lynx.fr, elle est de 432 euros en moyenne. C'est énorme.
Et c'est notamment pour les seniors où là, on peut vraiment faire jouer la concurrence et on peut vraiment obtenir des tarifs plus intéressants.
Et les travailleurs non salariés également. Et ce qui est très intéressant quand on fait le rappel de la loi Hamon, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a eu la loi Hamon, on s'est dit que et notamment l'ANI, ce dispositif qui demande aux entreprises de donner une mutuelle santé collective pour leurs salariés, on s'est dit qu'on n'aurait plus de salariés qui viendraient sur le comparateur de lynx.fr pour comparer, puisqu'ils avaient c'est pas du tout ce qui s'est passé, par exemple, sur ce sujet. Aujourd'hui, on a une proportion de salariés qui est très importante, ils viennent encore comparer et ils viennent encore prendre une assurance pour compléter, et c'est pas une assurance complémentaire, c'est une assurance pour compléter les défaillances de l'assurance qu'a pris l'employeur et qui serait pas suffisamment intéressante pour la famille. Donc, 882 euros en moyenne par an, 432 euros d'économie en venant comparer sur le lynx.fr, et on observe depuis l'annonce de ce dispositif, une augmentation de 37% du nombre de devis sur le lynx.fr.
Ah oui, donc comme quoi quand même, les gens qui sont concernés et les gens qui sont au courant s'intéressent à tout cela. Il y a un point extrêmement important qui est à rappeler, je pense. Nous n'avons rien à faire. C'est-à-dire, une fois que nous avons choisi notre nouvel assureur, c'est lui qui se dépatouille de tout.
C'est ça. En fait, vous pouvez faire, donc, grâce à la loi infra-annuelle, rapidement, après la première année, facilement et gratuitement. Donc c'est vraiment les trois points à rappeler, parce que quand on fait des études ou qu'on, des sondages et qu'on pose la question aux Français, aux Ottomans utilisateurs, ils disent « Ah mais c'est compliqué, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Mais je dois résister. Non, non, non. Vous avez juste à choisir le nouvel assureur, donc déjà à comparer, pour, attention, à garantie égale, toujours, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de vous dire vous allez économiser 430 euros, mais vous allez avoir une mutuelle moins couvrante. Mmh. Pas du tout, c'est à garantie égale, vous allez avoir des assureurs qui vont se positionner et vous allez pouvoir choisir. Une fois que vous avez choisi, il s'agit d'un clic, hein, tout simplement. Mmh. Vous serez rappelé ou vous pourrez souscrire ou par téléphone ou en ligne.
Et voilà, voilà. Et tout donc, sera fait rapide, pour ceux qui souhaitent potentiellement faire des économies. Un grand merci, Amina Walter. Je rappelle que vous êtes la directrice générale déléguée du Lynx.fr, un des grands comparateurs d'assurance en ligne. On ne se retrouve pas demain, puisque demain, très grosse soirée de football en direct sur Europe 1. Je vous dis donc à jeudi, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, que l'on retrouvera en revanche demain à partir de 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Chaque jour, un grand patron qui nous explique comment il se réinvente face à cette crise inédite. Demain, ce sera le patron de Bon Duel. 22h28 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Vaccination, pourquoi la montée en charge sera lente, titre Les Échos. Et pour cause, selon le journal, seulement une dizaine de millions de doses contre le Covid seront livrées à la France au premier trimestre 2021. Toutefois, l'arrivée de ces vaccins devrait accélérer le retour de la croissance. C'est l'un des titres à la une du Figaro. Alors que le monde vit au ralenti depuis l'apparition de la pandémie, l'OCDE se montre enfin un peu plus optimiste dans ses prévisions économiques. Mais le rebond sera très inégalement réparti entre États selon l'institution. Fin 2021, la plupart des pays européens n'auront pas retrouvé leur niveau de richesse d'avant la crise quand la Chine l'aura dépassé de près de 10%. Quel produit pour les fêtes, s'interroge en une Ouest France. Noël, cette année ne sera pas une fête normale, a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran. Déclaration qui plonge les producteurs de produits festifs dans l'incertitude. Certaines filières jouent leur survie, écrit le quotidien de l'Ouest. Chiffre à l'appui, 75% du foie gras est vendu en novembre-décembre, plus de 60% des huîtres. Allez, comme promis, on conclut ce journal de la nuit avec le foot, la Ligue des Champions et toujours un partout entre l'OM et l'Olympiakos, Jean-François Pérez.
Oui, alors qu'il reste une vingtaine de minutes à jouer dans ce match et sous une froidure assez remarquable en ce début décembre, mais l'Olympique de Marseille a peut-être l'occasion là de réchauffer un petit peu plus ses téléspectateurs, j'allais dire le public, mais il n'y en a pas. C'est un coup franc de Dimitri Payet, extrêmement bien placé, juste à l'entrée devant la ligne de la surface de réparation, parce qu'il y a un Grec qui a contré un tir de Valentin Rongier avec les mains, il ne pouvait pas faire autrement, sinon il prenait le ballon en plein visage, mais c'est désormais interdit. Donc du coup, un coup franc magnifique à jouer pour l'Olympique de Marseille. Peut-être, qui sait, la balle du 2 buts à 1. On rappelle les buteurs pour l'instant. Payet, justement, qui avait marqué, et c'est un événement, le premier but de l'OM en Ligue des Champions cette saison. Et même le premier but depuis 7 ans. Ça faisait 7 ans que l'OM n'avait pas marqué le moindre but en Ligue des Champions. Et vous entendez derrière quelques supporters isolés dans le stade qui se réjouissent parce que ce sera non pas un coup franc, mais un deuxième pénalty pour l'Olympique de Marseille. Une deuxième occasion pour Dimitri Payet de donner à son équipe l'avantage au score. Attention, 74e minute. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout.
On a le temps.
Ah bah écoutez, c'est formidable. On va suivre ensemble ce pénalty pour Dimitri Payet qui va donc peut-être donner l'avantage à l'OM. Alors, petit retour sur ce qu'a fait Payet dans cette compétition jusque-là. Contre Porto, il avait envoyé un pénalty dans les nuages, il l'avait raté dans les grandes largeurs, c'était assez incroyable pour un joueur de son palmarès et de son talent. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, il a transformé le pénalty du 1 partout de manière magnifique en tirant pleine lucarne très fort avec une énorme sûreté technique. C'est donc lui, alors qu'on s'attendait à un coup franc de sa part, et vous direz, il n'est pas maladroit non plus dans l'exercice, mais c'est lui qui va donc frapper une deuxième fois le penalty face à lui, le gardien grec, évidemment le grand gardien grec qui va essayer, José Sa, le portugais, de bloquer cette tentative. L'Olympique de Marseille qui mériterait malgré tout, même si tout n'a pas été génial, loin de là hein, ce soir, mériterait de mener au score. Payet qui va prendre tout son temps, un petit coup d'œil au chrono, 75e minute, l'OM qui aurait donc derrière encore un quart d'heure pour arracher le 3-1 et la 3e place de ce groupe et donc continuer sa route en Coupe d'Europe, en Ligue Europa. Dimitri Payet sur le point de pénalty, le ballon, et oui, encore une fois, exactement le même pénalty que tout à l'heure, le gardien y a cru, il a même touché le ballon, José Sa, mais ça n'a pas suffi, 2-1 pour l'Olympique de Marseille qui relance le suspense pour la suite de sa vie en Coupe d'Europe cette saison.
Et peut-être la fin de cette incroyable série de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. Merci Jean-François Pérez, en direct du Stade Vélodrome pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais très bien, je m'excuse d'avance de ce petit retard.
Mais je vous en prie.
Le foot, vous savez, c'est notre passion commune.
Et puis enfin, on voit Marseille, enfin. Je suis très content, pourvu que ça tienne et qu'ils en marquent un troisième.
Pour se qualifier en Europa League. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui commence donc dès maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et j'en profite pour prévenir toute la communauté qui suit cette libre antenne que demain, nous prendrons l'antenne à partir de 23h30 puisque demain, il y a encore une soirée football sur Europe 1, puisque le Paris Saint-Germain et Rennes jouent demain encore un match de Ligue des Champions. Donc 23h30 demain pour votre libre antenne. Et quant à vous, Julien, à tout à l'heure, 23h pour le Flash.
À tout de suite.